Mardi prochain, ce sera les élections de mi-mandat aux États-Unis et notre collaboratrice va se rendre en Floride pour suivre ça de très près. En même temps, elle pourrait aller checker ça au Wisconsin. Non, elle s'en va en Floride. Mais tant mieux pour elle. Non, mais c'est un point chaud. Elle va nous le dire pourquoi qu'elle va là. Chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, Valérie Beaudoin, salut.
Allô.
Les élections de mi-mandat pour les nuls ce matin, on en parle abondamment, mais qu'est-ce que c'est au juste les élections de mi-mandat et qui est en élection le 6 novembre qui vient là?
Faut dire qu'aux États-Unis, on est toujours en élection hein, parce que c'est aux deux ans que les gens doivent aller aux urnes, alors c'est comme si les campagnes électorales se succédaient toujours. C'est un tiers du Sénat qui va être en élection le 6 novembre prochain, ça c'est environ 33 sénateurs. Là, il y a des élections aussi spéciales qui vont se rajouter à ça, alors 35 sénateurs au total qui devront être élus.
Ils sont élus pour un mandat de combien?
6 ans.
Ah, c'est pour ça qu'à tous les deux ans,
exactement,
on change le tiers de la Chambre.
C'est okay. Ça. Donc, ça donne une certaine stabilité. Et finalement, là, les gens vont revenir en élection. C'est pour ça qu'il y a certains États qui sont plus importants que d'autres et que les courses sont vraiment à surveiller. C'est parce que c'est pas à l'avantage des démocrates, ce tiers-là du Sénat. Il y a beaucoup d'endroits où Trump... Exactement. Alors, celui qui est en réélection, c'est dans beaucoup d'États où Trump a gagné par 10 points. Par exemple, à la dernière élection en 2016.
Ce qui est une avance confortable dans le
tout
système
américain.
Tout à
fait. Il y a aussi les 435 siège de la Chambre des représentants. Alors, ça, c'est tout l'ensemble de la Chambre. Eux sont là pour des mandats de 2 ans. Alors, ils vont être en réélection aussi. Il y a aussi 36 États qui vont élire un gouverneur qui est l'équivalent du premier ministre et des milliers d'autres élections parce qu'on va élire, bon, des shérifs, des juges. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, là, on va élire vraiment des gens de partout dans la démocratie municipale et étatique aussi.
Tu l'as dit, c'est Trump, républicain, qui est au pouvoir. Qu'est-ce que ça va changer concrètement s'il fallait que les démocrates renversent le pouvoir avec ce tiers du Sénat-là?
Je dirais simplement Brett Kavanaugh. Ça serait la première chose. Exemple, s'il y a une nomination d'un autre juge à la Cour suprême, d'un autre quelqu'un là, pour un nouveau poste de procureur général, tous les postes qui sont importants aux États-Unis, ça doit passer par la Chambre des représentants et le Sénat, surtout le Sénat, je dirais. Mm-hmm. Alors, on peut bloquer des nominations. On peut demander une enquête plus poussée sur Brett Kavanaugh.
Ah,
on
ouais?
a le pouvoir de revenir là-dessus.
Okay,
alors,
c'est
tout
concret,
ce qui est nomination, c'est des choses concrètes, justement, qui peuvent être faites si le Sénat était aux démocrates, par exemple. Et c'est certain, je peux vous donner des exemples. Obama, il y a eu souvent une Chambre et un Sénat qui étaient républicains.
Ouais.
C'était très difficile mm-hmm. pour lui de faire passer des choses comme Obamacare. Ça a pris énormément de temps. Il n'a pas eu exactement ce qu'il voulait.
Donc, là,
alors, vraiment, il y a un contrepoids aux États-Unis.
Mais ce contrepoids-là, par exemple, excuse-moi, là, c'est pas dans le plan de match, mais qu'est-ce qui le garantit? Tu comprends? Parce qu'on dirait qu'Obama, lui, il y avait les républicains. Qu'est-ce qui nous dit que les républicains ne feront pas ce qu'ils ont fait sur Obama puis se faire carrément réélire? Ils pourraient se faire réélire comme sénateur. On dirait qu'on prend pour acquis qu'il va avoir une alternance.
Ah, mais tout
pas
à fait. Tout à fait.
Là.
Je dirais même que le Sénat, si on se fait au sondage, mais on le sait que les sondages, bon, faut en prendre et en laisser,
ouais.
là. Mais le Sénat devrait rester aux mains des Républicains
ah,
si
ouais.
on se fie au sondage actuel
okay.
et la Chambre des représentants aller du côté démocrate. Alors, il y aurait quand même...
Il y aurait ce changement-là.
Oui, alors ça, c'est vraiment ce qu'on croit, surtout avec le discours actuellement, les modérés républicains qui devraient voter pour des élus démocrates.
Et qu'est-ce que les résultats du 6 novembre peuvent envoyer à Trump comme message, que ça l'aille d'un bord ou de l'autre?
On dit souvent et à raison que les élections de mi-mandat, c'est le référendum sur la présidence. Alors, est-ce
okay.
qu'on est satisfait ou pas de Trump jusqu'à maintenant?
Okay.
Alors, c'est certain que s'il y avait un balayage, la fameuse vague bleue, alors que les démocrates prendraient les deux chambres, ça dirait, écoute, ça passe pas ton message.
Mm-hmm.
Là, réajuste-toi pour 2020 parce que tu peux avoir peur qu'il y ait un candidat démocrate qui te vole la présidence. Si... Ça va bien pour Trump, dans le sens que les républicains sont réélus en masse.
Ah ben là.
C'est que le message qu'il fait, le message aussi controversé qu'il est, ça fonctionne, l'économie va bien, les Américains sont satisfaits.
Bon,
on continue comme ça, et en 2020, on verra qu'est-ce qui va arriver, mais qu'il n'y a pas de signal d'alerte pour l'instant.
Mais là, Donald Trump a durci le ton sur l'immigration. Pourquoi? C'est une stratégie, j'imagine?
Les démocrates disent bon, qu'il a peur parce qu'il veut changer le discours, parce qu'il a perdu l'espèce de momentum avec les événements qui sont passés, les envois de bombes, les colis qui ont été envoyés à des démocrates, la tuerie à la synagogue. Et là, il fait appel à sa base parce que c'est vraiment, là, je ne sais pas si vous avez vu les publicités, le message, c'est extrêmement, ça divise, là, ça polarise. Et ça dit, entre autres mots, ben, écoutez, si vous élisez des démocrates, ils vont laisser entrer des criminels, des tueurs de policiers et c'est de leur faute, finalement, ce qui arrive. Alors vraiment, on fait des raccourcis avec ça. Dans les rallyes, on dit aussi, ben écoutez, vous allez voir, si les immigrants arrivent, on va faire des tentes, s'ils lancent des roches, l'armée va pouvoir leur tirer dessus. Alors vraiment, on a un discours de peur qui est mis. On appelle à la base, mais le danger, c'est les modérés républicains qui, eux, sont pour l'immigration jusqu'à un certain point, dans le sens qu'ils emploient des immigrants et tout ça.
Mmh.
Ils se retrouvent où là-dedans, dans ce discours-là? Ils se retrouvent pas, là.
Là, tu vas quitter pour la Floride.
Oui.
Bon, à part là, parce qu'il prévoit 30 degrés en début de semaine prochaine, pourquoi la Floride pour couvrir les élections de mi-mandat, Valérie?
Oui, ben la chaleur, non. Mais tout d'abord, c'est qu'il y a des courses extrêmement intéressantes au niveau du gouverneur, donc la personne qui va diriger l'État. Il y a Andrew Gillum. Andrew Gillum, c'est un progressiste. Il est endossé par Bernie Sanders. Barack Obama aussi fait énormément de publicité pour lui. Ça serait le premier Afro-Américain à diriger l'État de la Floride, à être gouverneur. Et ça fait à peu près 25 ans qu'il n'y a même pas eu de démocrate qui gouverne l'État de la Floride.
C'est principalement républicain, la Floride, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est considéré aussi comme un swing state. Alors souvent, ça peut bouger un peu, mais je dirais qu'au niveau de gouverner, c'est assez républicain, en effet. Et lui, donc le progressiste, est contre son opposé. Ron DeSantis, qui est un mini-Trump, qui est vraiment un pro-Trump. Et je vous ai sorti une publicité qui avait fait beaucoup jaser, juste pour mettre un petit peu la table sur cette personne-là. On va écouter le début.
Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
Build the wall.
He reads stories.
Then Mr. Trump said, "You're fired." I love that part.
He's teaching Madison to talk.
Make America great
again. Alors, c'est sûr qu'il y a un ton humoristique, là, on va se dire, mais quand même, alors, ses enfants, sa femme qui sont utilisés dans cette publicité-là, qui circule depuis un petit bout de temps, qui avait fait le buzz à l'époque. Alors, lui, il dit à son petit garçon, ben, là, construit le mur. Et on le voit jouer avec des blocs style Lego. Après ça, il y a une histoire, ben, c'est les livres de Trump.
Fire Trump.
Et Make America great again. Il tient, finalement, la pancarte, finalement, de Mike Pence et de Donald Trump pour apprendre à lire, apprendre certains mots. Alors, vous voyez comment c'est opposé. On a le progressiste qui est vraiment pour l'assurance maladie pour tous. Mmh. On l'étend à tout le monde. Et l'autre personne, Ron DeSantis, qui défend Trump coûte que coûte. On le voit souvent dans les médias américains. Et au niveau des sénateurs, écoutez, ils sont prêts l'un de l'autre. Alors, vraiment, ça va être des courses
son
à surveiller.
Son nez
à nez. Ça va être un état chaud, alors, autant au niveau de la météo que de la politique.
Voilà, exactement. Je ne pourrais pas mieux le dire.
Valérie, on va te parler avec plaisir quand tu seras de ce côté-là.
Oui.
Et tu vas te rendre aussi, je sais, dans la région de Parkland, où il y a eu cette fusillade il y a 8 mois. Là,
oui,
donc,
faire
prendre
le point
un peu
avec eux.
Le pouls de la population là-bas. Merci, Valérie, d'être venue ce matin. C'est toujours apprécié.
On a compris, puis tout.
Ouais, on a.
C'est l'important.
Valérie Beaudoin, qui est chercheur à la chaire Raoul d'Endurance.
En semaine, dès 5h25.
96,9.